Chapitre 5. Je descendis de cheval. Un courrier italien, en magnifique livrée, me conduisit à travers la cour vers un petit pavillon isolé, donnant sur les prés et qui faisait partie de l'auberge. Il y avait deux ou trois chambres pour les voyageurs de distinction que la nuit surprenait souvent à cette poste, au pied de la montagne de son Bernon, où l'on n'aimait pas à s'aventurer dans les ténèbres. Le courrier m'annonça à une femme de chambre ou nourrice en costume des paysannes de Tivoli, costume qui me fit battre le cœur parce qu'il me rappelait Gradiel. Cette femme, très âgée, m'ouvrit la porte de l'appartement de ses maîtresses et j'entrai. Je crus, en entrant et en apercevant la foudroyante beauté de la jeune princesse qui se leva pour venir au-devant de moi, que mon oncle avait raison et que, si le cœur créait quelquefois la beauté aussi était capable de créer un nouveau cœur dans celui qu'elle enveloppait d'un tel rayon. Il faut que je tente au moins de décrire la scène qui ne s'est jamais effacée depuis de mon regard. La chambre était vaste, meublée comme une chambre d'auberge de village, de deux grands lits à rideaux bleus de ciel, de vaches, de caissons de voitures, de châles et de manteaux de voyage couverts de poussière et jetés sur les chaises ou sur le tapis. Une seule fenêtre ouvrait sur une large vallée de prairies. Les derniers rayons du soleil éclairaient la chambre et les figures de cette lueur poudreuse et chaude qui ressemble à une pluie d'or sur le sommet des arbres et des horizons. Cette lueur tombait à travers le rideau bleu entr'ouvert, en diadème rayonnant sur le sommet de la tête, sur le cou et sur les épaules de la jeune fille. Elle était grande, svelte, élancée, mais sans aucune de ces fragilités trop délicates et de ces maigreurs grêles qui dépouillent de leur carnation les jeunes filles de 16 à 18 ans dans nos climats tardifs du Nord. Sa taille, ses bras, ses épaules, son cou, ses joues étaient revêtus de cette rondeur du marbre qui dessine la plénitude de vie dans la statue de Psyché de Canova. Rien ne fléchissait, quoique tout fût léger et aérien dans sa taille. C'était l'aplomb, sur un orteil, de la danseuse qui relève ses bras pour jouer des castagnettes sur le sable de Castellamar. Elle était vêtue de soie noire, comme toutes les Italiennes de ce temps. Elle n'avait sur cette simple robe ni châle, ni fichu qui cachasse ses épaules ou qui empêchasse le tissu serré de soie de dessiner, comme un vêtement mouillé, les contours du corps. La robe était très courte, comme si celle qui la portait eût grandi depuis qu'elle était faite. Elle laissait se dessiner et se poser sur le tapis deux pieds, un peu plus grands et un peu moins sveltes que ceux des Françaises. Ses pieds ne portaient point de souliers, ils flottaient en liberté dans des pantoufles de maroquin jaune, revêtues de paillettes d'acier et brodées de liserés de diverses couleurs. Son cou était entièrement nu. Un gros camé, retenu par un ruban de velours noir, relevait seul son éclatante blancheur. Soit effet de soleil, effleurant son front par le haut de la fenêtre, soit effet de l'émotion et de la pudeur dont la présence d'un inconnu et ce qu'elle avait à me dire l'agitait d'avance, soit nature inondée de vie, toute la coloration de sa personne semblait s'être concentrée dans son visage. Quant à l'expression de ses yeux, d'un bleu aussi foncé que les eaux de Tivoli dans leur abîme, de sa bouche dont les plis graves et un peu lourds semblaient à la fois envelopper et dérouler son âme, de cette douceur qui s'élançait et de cette majesté naturelle qui se retenait dans son élan vers moi, je n'essaierai jamais de la décrire. On ne décrit pas la lumière, on la sent. Une résille de soie cramoisie, comme les femmes du midi en mettent sur leur tête en voyage ou à la maison, enveloppait ses cheveux. Mais les larges mailles du réseau, déchirées en plusieurs endroits par le frottement de la voiture, en laissaient échapper des boucles touffues çà et là, et laissaient voir leur masse, leur souplesse et leur couleur. Ses cheveux étaient blonds, mais de cette teinte de blond qui rappelle le tuyau de la paille de froment calciné et bronzé par le mois de la canicule dans les plaines de la campagne de Rome, blond qui est un reflet de feu sur les chevelures du midi, comme il est un reflet de glace sur les chevelures du nord. Ses cheveux, à leur extrémité, changeaient de couleur comme ceux des enfants. Noués au sommet de sa tête sous la résille par un ruban de feu, Il formait une espèce de diadème naturel sur lequel brillait le soleil. Telle s'avançait vers moi, la princesse Regina. Je ne savais s'il y avait plus d'éblouissement que d'attendrissement dans ses traits. Je restais immobile et comme asphyxié d'admiration.